Il est moustachu à Lyon, il est moustachu à Bordeaux. C'est un grand bonhomme insolite à Lyon, c'est un grand bonhomme insolite à Lyon. À Lyon, on l'appelle Jean-Luc Savan. Mais là, on va parler de beurre.
Bruno Beurrier. Effectivement, mon nom, j'ai la chance d'être dans le dictionnaire.
Bonjour, qui es-tu, que fais-tu dans la vie?
Bonjour, je suis guide conférencier. Sur Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, la France, tutti quanti. Je peux également faire visiter aux gens de passage de la ville de Paris. Mais je suis bordelais, donc j'ai une appétence plus particulière à faire visiter ma ville.
Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'es tombé dedans quand t'étais petit, non? Tu regardais Astérix Obélix et tu t'es dit, tiens, je vais...
Alors, il faudrait avoir déjà 3 jours devant soi, vu mon âge. Mais j'ai roulé ma bosse auparavant. J'ai travaillé dans le domaine de la publicité, dans le domaine du marketing, dans le domaine de la formation professionnelle, la formation continue.
Ça ne m'étonne pas.
Mais il s'avère qu'à la base, j'avais une appétence. J'ai fait des études en histoire de l'art. Et ces études, je ne les ai jamais utilisées. Et un beau jour, l'âge passant, je me suis dit, pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Et il s'avère que Bordeaux venait juste d'être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous étions en 2007. Et là, je me suis dit, ça va donner un prisme, un focus sur la ville. Et donc, j'ai lié les deux. C'est de faire un métier qui me passionne. Je ne fais pas... Toutes mes visites sont différentes les unes des autres, puisque que ce soit des Alsaciens ou que ce soit des gens de Boston ou que ce soit des Australiens ou des Portugais qui découvrent ce patrimoine, ils regardent avec leurs yeux. Donc comme je suis dans la communication et que j'aime bien discuter avec les gens, je vois par leur prisme la découverte de la ville. Et les visites, les questions ne sont jamais les mêmes. Et c'est ça qui est très enrichissant. Parce que non seulement ils viennent visiter notre patrimoine, mais moi je découvre énormément à travers eux de leur pays.
On connaît Lutèce, on connaît Luc Denhomme, c'est Burdi...
Soyons clairs, Burdigala.
Burdigala, ça vient d'où ça?
Waouh! Alors.
Et comment ça a fait pour se transformer en Bordeaux?
Alors,
en dehors du vin.
Alors, après, c'est. Quand je sais, je sais. Quand je ne sais pas, je ne sais pas. Mais il y a. Pour la ville de Bordeaux, il y a plusieurs possibilités. La plus simple qui est connue de tout le monde, c'est Bordelot. Mais il s'avère qu'il y a très longtemps, à l'époque mérovingienne, il y avait une famille puissante à Bordeaux qui s'appelait les Bordeaux. Et on dit que ce serait eux qui auraient donné le nom à leur ville. Mais avec la langue française, l'étymologie, quand je sais, je sais. Quand je ne sais pas, je ne sais pas. Mais on peut encore inventer d'autres... Voilà. Un jour, peut-être qu'on aura une définition claire du pourquoi, d'où vient le mot de Bordeaux. À ce jour, voilà ce que j'en sais.
Attends, moi j'appuie sur le bouton marche arrière. Burdi, ça y est, je ne me rappelle plus.
Ah, Burdigala. Alors malheureusement, je n'ai pas fait d'études de latin. Mais Bordeaux est une communauté, les premiers éléments que l'on a d'une communauté qui s'est installée à Bordeaux, on est au 6e siècle avant Jésus-Christ. Voilà. Puis après, avec l'expansion de l'Empire romain qui s'arrêtait à Toulouse, ils ont poussé jusqu'ici. Voilà, la véritable première peuplade qui a fondé la ville de Bordeaux, ce sont notamment, ça ne s'invente pas, une communauté celtique qui s'appelait les Bituriges Vivisques.
Les quoi ?
Bituriges Vivisques. Un jour, j'ai eu une dame à cette réflexion qui, bien entendu, a souri et qui m'a dit « Merci, je viens de comprendre l'étymologie du mot biture. Je pense que biture et biturige n'ont rien à voir. » Mais voilà, ce sont eux qui ont véritablement créé notre cité, qui sera ensuite le premier castrum. Et nous trouvons ici, juste à l'emplacement du rempart, du premier rempart de Bordeaux, qui protégera la cité au 3e siècle. Voilà, mais il y a tellement de choses à dire sur notre bonne ville de Bordeaux. Nous avons encore des sites antiques comme le palais Galien, qui n'a rien d'un palais et qui n'a rien à voir avec Galien, qui était simplement un amphithéâtre. Mais voilà, mais c'est ça, c'est que ce que j'aime bien également, c'est la distorsion qu'il peut y avoir entre ce que l'on sait aujourd'hui et les traditions populaires et de la réalité. Je dis toujours quand je sais, je sais, quand je ne sais pas, je ne sais pas.
On doit au sous-préfet du Haut-Rhin notre chronique, en tout cas le nom de notre chronique, qui s'appelle « Pas de tourisme sans mémoire, pas de mémoire sans tourisme ». En quoi c'est important, la mémoire ?
Il m'arrive de faire des interventions notamment avec, et j'adore, avec des écoles de commerce, et notamment avec leurs étudiants étrangers. Et là, c'est fabuleux, parce que quand je suis devant eux, j'ai des Taïwanais, des Australiens, des Américains, et là, j'avoue que ça fuse, parce que toujours, ils arrivent avec leur propre culture. Mais j'introduis toujours mon propos de la manière suivante. Je leur dis toujours, vous ne pouvez appréhender votre futur que parce que vous vivez vraiment votre présent, et surtout, c'est parce que vous savez d'où vous venez. Et un jour, lors d'une de mes lectures, et j'en ai fait ma devise, que je laisse vos auditeurs réfléchir, parce que c'est une devise que l'on peut prendre par différentes portes d'entrée. C'est un proverbe russe qui dit « Arrête-toi sur le passé et tu perdras un œil. N'en tiens pas compte et tu perdras les deux. »
Là, c'est le temps de réflexion, là.
Oui, je vois que ça vous laisse en toi. Voilà, c'est que l'on ne peut... Moi, si j'ai une appétence par rapport au patrimoine, par rapport à l'histoire de l'art et par rapport à l'histoire, c'est que... et on a tous eu des professeurs, des maîtres d'école qui nous ont fait aimer une matière. Et moi, je m'en souviendrai toujours, c'était mon maître d'école quand j'étais en classe de 7e, le CM2, comme on dit, et qui m'a fait comprendre et qui nous a fait comprendre que l'histoire, un homme ou une femme du 3e siècle avant Jésus-Christ, ou le même homme ou la même femme au 13e siècle, au 15e siècle, au 18e siècle, en 1920 ou aujourd'hui en 2020, l'homme ou la femme est foncièrement toujours le même. Il est honnête. Il y en a qui ne le sont pas, mais c'est uniquement les moyens qui ont changé, la technologie et le pouvoir d'imagination de créer de l'homme. Et donc, j'ai découvert très jeune que comment on fait de l'argent dans l'Antiquité, comment on devient riche au Moyen-Âge, comment on fait de l'argent au XVIIIe siècle ou comment on fait de l'argent aujourd'hui. Comment, voilà. Et donc, c'est de mettre et de comparer ces différentes époques, de voir que fondamentalement, l'homme ou la femme est toujours le même, mais c'est uniquement les moyens qui changent. Et de comparer, par exemple, aujourd'hui, comment on se déplace à vélo, comment on pouvait se déplacer autrefois. Les enjeux n'étaient pas les mêmes, mais il faut tout remettre dans leur contexte. Et j'adore ça.
Je t'ai croisé tout à l'heure dans la rue piétonne en arrivant. Ce qui était rigolo, c'est que je te voyais avec un groupe qui était des Anglais ou des Américains, je crois, des étrangers.
Alors, c'était une visite qui était en bilingue, c'est-à-dire que les trois quarts des gens étaient des Français, mais il y avait également des Américains.
Alors, justement, ce qui est assez original, c'est qu'il y a certaines villes, il y a certains monuments qui aujourd'hui se dotent de tablettes tactiles ou d'audio-guides pour faire des visites. Pourquoi toi ? Pourquoi j'irais faire appel à quelqu'un comme toi ? Alors que c'est plus simple d'avoir un audio guide.
On est tout à fait d'accord. Mais leur limite, c'est que... alors c'est vrai que ça fait peut-être vieux discours, comme diraient mes enfants. Mais...
Je te rappelle que le vieux discours en ce moment, on est en train d'écouter les musiques des années 80, il y a les vinyles qui reviennent, etc. Donc...
Rien ne remplace l'humain. Le contact, la communication.
C'est joli ça, rien ne remplace l'humain.
Complètement. Rien ne remplacera jamais l'humain, le contact. Et alors après, bien entendu, c'est une rencontre entre des gens qui prennent un guide pour faire découvrir un patrimoine, un lieu. C'est une rencontre. On ne peut pas plaire à tout le monde. Mais
encore Marco qui traîne dans les pages.
Mais j'ai toujours, et j'ai une pensée pour l'une de mes grands-mères. Quand elle recevait à table, elle avait ce don de mettre les gens à l'aise, de les recevoir. Et elle disait toujours, quand les gens lui disaient, écoutez, c'était formidable, votre accueil, votre manière, nous avons passé un déjeuner. Et ma grand-mère disait, ça je m'en souviendrai toujours, non, c'est que j'ai simplement vous donné l'envie, un petit goût de revenez-y. Et moi, quand les gens visitent avec moi, que ce soit à Bordeaux, à Saint-Émilion, ou qu'on soit sur la côte basque, qu'on soit à Paris, je dis aux gens, mon simple objectif, c'est de vous donner un petit goût de revenez-y. Voilà, je ne suis qu'un passeur. Je donne des clés, les gens ouvrent les portes ensuite. Mais c'est une démarche. Le plus beau des compliments que l'on peut me faire, c'est nous avons à Bordeaux, c'est une chance. Enfin, pour moi, c'en est une. Nous avons la plus grande librairie privée française, la librairie Mola. Et quand je rencontre après des gens, des Bordelais ou des néo-Bordelais qui viennent s'installer, qui me disent « Ah, dites-moi, après la visite que j'ai faite avec vous, je suis allé à la librairie et par rapport à cette période du Moyen-Âge ou par rapport à ce point-ci qu'on a vu avec vous, je suis allé acheter un livre. » Pour moi, c'est gagné.
Eh bien, moi, il paraît qu'on s'est loupé à la librairie Mola parce que quand je suis passé devant, il y avait un type pas très connu, il y avait une plaque dehors. Alors déjà, moi, j'avais entendu parler de la librairie Mola quand j'avais préparé mon arrivée à Bordeaux. Mais je vois une plaque et on parlait du président Montesquieu. Voilà. Et c'est comme ça que je suis rentré.
Alors, effectivement. Alors,
par contre, je n'ai pas demandé pourquoi président.
Alors, président... président... au Parlement de Bordeaux. Mais comment ça s'appelle ? Surtout, ce qu'il y a, c'est que, alors là, c'est une... dans la grande tradition bordelaise, on dit les trois M de Bordeaux.
Montaigne, Montesquieu et Mauriac.
Tout à fait.
T'as vu, j'ai bien...
Bravo.
Allez, dernière question. On se donne un goût de... Revenez-y.
Merci.
Attends. T'es prêt ?
Oui.
Tu vas venir sur le plateau de Radio Cyclo dans le cadre du congrès de la FUB. Et je crois que, Sophie, tu fais de la mobilette, non ? Je ne sais plus.
Non, parce que ça, c'est vrai. C'est que, notamment quand je fais visiter Bordeaux, je pose toujours la question aux gens si c'est la première fois qu'ils viennent à Bordeaux. Et si c'est la première fois qu'ils viennent à Bordeaux, j'ai à cœur de leur expliquer que 20 ans, c'est court. Pour d'autres, c'est long. Mais 20 ans, le cadre de vie des Bordelais a complètement changé. Soyons clairs, il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est l'ancien maire de Bordeaux, Monsieur Juppé, qui a changé complètement le cadre de vie des Bordelais. Avant, on utilisait sa voiture pour tout et pour rien. La voiture peut toujours venir à Bordeaux, mais elle rentre dans un parking et les gens se déplacent à pied, à vélo et en tramway, puisque le tramway qui nous avait quitté dans les années 50 est revenu dans Bordeaux avec cette nouvelle technologie qui est le câble enterré. Ça, je peux vous dire quand même, c'est Alstom nous a fait... Bordeaux a été la première ville à tenter l'expérience de cette technologie. Aujourd'hui, tout le monde applaudit dès demain. Et c'est vrai que les étrangers, je pense à nos amis bruxellois ou de Genève ou de Saint-Pétersbourg qui découvrent notre ville sans aucune pollution visuelle dans le centre de Bordeaux, c'est absolument génial. Mais il est vrai que le vélo a pris une importance énorme. C'est absolument exponentiel le nombre de cyclistes aujourd'hui à Bordeaux. Et moi-même, qui habite dans Bordeaux, me déplace à pied ou à vélo avec une petite anecdote. Souvent, les gens m'arrêtent, on me demande « Mais où est-ce que vous avez trouvé votre vélo ?» Et j'ai le plaisir, j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Il s'avère que c'était le vélo de mon grand-père qui avait... une affaire qui se trouvait sur la ligne de démarcation pendant la dernière guerre mondiale. Et quand les Allemands sont arrivés, les Allemands l'ont piqué, tous les camions, toutes les voitures. Il s'avère qu'il avait ma taille et que comme il était sur la ligne de démarcation, il avait des terrains qui étaient en zone libre. Et pour se déplacer, il avait besoin d'un vélo. Et il a fait appel à l'entreprise Cazeneuve, pour les plus anciens qui connaissent, qui se trouve dans le sud Gironde, à Belin-Belier. Et mon vélo, c'est le vélo de mon grand-père qui s'est acheté en 1941.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur Radio Cyclo, sur le plateau radio et le plateau télé. Ça se passe à Bordeaux. Merci Bruno.
Je vous en prie, merci. Bonne journée à vous.